lancer la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors cette semaine, je vais vous présenter une organisation, une personne qui représente une organisation pas comme les autres, une organisation qui n'est ni une association, ni une entreprise, une fondation. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas donné la parole à une fondation, à l'Ours à la Carotte. Et celle-là est assez particulière, elle est profondément naturaliste, c'est vraiment son ADN. Pour nous la présenter, cette fondation qui s'appelle Clamor Terrae, on ne va pas faire durer le suspense, je vais vous présenter Thomas Contamine, bonjour.
Et bonjour.
Alors toi, tu n'es pas le fondateur de cette fondation, tu en es le directeur. Petite fondation basée dans les Pyrénées, et raconte-nous un petit peu cette histoire qui est assez atypique dans le paysage de l'environnement.
Mais alors, la Fondation Clamor Terrae, elle est née en 2024 de la volonté de Denis Clément, qui est donc son fondateur, l'actuel président de la Fondation, et qui est un entrepreneur des Pyrénées, très attaché au territoire, qui est un naturaliste amateur extrêmement calé, et qui a toute sa vie, en parallèle de ses activités entrepreneuriales, mené un certain nombre de combats, de luttes pour la défense des écosystèmes pyrénéen, et qui au moment de sa retraite a voulu s'investir dans un projet d'une autre nature qui ne soit justement ni une association ni une entreprise, et qui a créé cette fondation Clamor Terrae, qui est un fonds de dotation et dont l'objectif est la lutte pour la préservation des écosystèmes des Pyrénées et l'intégration de nos modes de vie, nos systèmes sociaux, économiques à ces mêmes écosystèmes. On fait aussi des recours juridiques qu'on porte en notre nom propre, ou alors on soutient nos partenaires, dont FNE, pour mener des recours juridiques de ce type. Mais on a effectivement d'autres cordes à notre arc. On essaie en fait de repartir de ce qui constitue la première cause d'effondrement du vivant, de la biodiversité à travers le monde, qui est la fragmentation et la destruction des espaces naturels. C'est ça la première cause devant les espèces invasives, les formes de pollution, le changement climatique, etc. Alors, comment lutter contre cet effondrement de la biodiversité en s'intéressant à cette cause de la fragmentation des espaces naturels? Eh bien, en essayant d'agir sur le foncier. Alors, en protégeant ce qui reste, c'est-à-dire ce qui n'a pas été encore détruit par notre vaste système capitaliste marchand.
Alors, je te coupe deux secondes, mais normalement, la loi oblige à mettre en place des trams vertes et bleues sur les communes, oblige ces choses-là. Donc, normalement, c'est en place, vous ne devriez pas être utile.
Alors, effectivement, c'est exactement de ce même constat de fragmentation des espaces naturels qu'est parti le législateur, l'Union européenne, l'État, avec tout un tas de réglementations qui ont commencé depuis le début, la fin des années 90, début des années 2000, et qui sont déclinées de l'échelle européenne jusqu'au niveau local, avec les trams vertes et bleues dans les communes et les intercommunalités. Donc l'intention, elle est hyper saine, c'est vraiment une bonne manière de considérer le problème, sauf que, quand on ouvre un peu le capot et qu'on regarde ce qu'il est véritablement demandé aux collectivités territoriales en matière de continuité écologique, de trams vertes et bleues, on se rend compte que l'obligation qui leur est faite très souvent, c'est de les identifier, de les cartographier, de les mettre dans leur PLU, s'ils en ont un, dans leur plan local d'urbanisme, et puis c'est à peu près tout. C'est-à-dire que si à la faveur de ce grand travail d'inventaire, on trouve des espaces naturels qui ont vraiment une richesse incroyable, là il y a une obligation de protection qui leur est faite, mais pour ce qu'on appelle de manière maladroite la biodiversité ordinaire, là, il n'y a rien qui est fait. En gros, le constat duquel on part, nous, c'est qu'on a des modes d'exploitation du territoire qui sont tellement intenses et invasives qu'on aura beau s'échiner à vouloir protéger du mieux qu'on peut des espaces naturels, ils représenteront des surfaces toujours tellement faibles qu'à l'échelle macro, ça n'aura aucun effet. Donc protéger ces espaces type un parc national, une tourbière qui a une valeur écologique inestimable, c'est indispensable, il faut le faire. Mais il ne faut pas s'illusionner quant au fait que ça puisse avoir le moindre effet à un niveau macro sur la dynamique de destruction du vivant.
Vous redistribuez de l'argent, vous allez aider par exemple des associations qui vont se battre contre des projets, mais vous avez aussi l'originalité d'aller acheter carrément des terres.
Peut-être qu'on peut faire un petit crochet par la méthode qu'on emploie avant de rentrer dans les projets. Donc nous, on a un statut de fonds de dotation, c'est-à-dire que des mécènes, des donateurs peuvent nous donner de l'argent, nous le confier pour mettre en œuvre notre programme d'action. Et ce qui fait effectivement la spécificité de Clamorterra, et bien qu'on ne soit pas les seuls à faire ça, c'est qu'en tant que fonds de dotation, on a une capacité dite redistributrice, c'est-à-dire qu'on peut soutenir via des conventions de mécénat des partenaires qui partagent les mêmes intérêts ou luttes que nous. Et on a aussi une capacité d'action propre avec l'expertise qu'on héberge avec nos salariés à la fondation. Tout ce travail-là est adossé à un comité scientifique, dont on pourra peut-être redire un mot, parce que c'est vraiment au fondement de notre démarche d'appuyer tout ça.
C'est-à-dire que vous identifiez des endroits où justement des corridors écologiques sont intéressants à préserver. Et c'est en ça que vous êtes de vos partenaires scientifiques ?
Sur le volet scientifique, on peut le mobiliser sur des contre-expertises dans le cadre de recours juridiques, sur un soutien, un programme de recherche sur, l'impact des périodes de sécheresse sur les dynamiques botaniques d'un espace d'estive en altitude, pour essayer de corréler ça à la pratique pastorale qui va avec, ou alors pour essayer de définir, et ça c'est un peu notre programme phare en effet, les fonciers les plus stratégiques qu'il s'agirait d'acquérir. Toujours dans cette logique de reconstituer ou de préserver au mieux les continuités écologiques, on mène un travail d'analyse à très large échelle, parce que nous, on a vocation à travailler sur toute la chaîne des Pyrénées, d'identification de ce qui fait un peu ce qu'on appelle les réservoirs de biodiversité, les hotspots de biodiversité, qui sont les espaces qui sont plutôt bien portants ou les moins mal portants en matière de dynamique écologique. Et on s'interroge sur la manière dont il est possible, entre ces deux patates, de reconstituer un corridor écologique en s'appuyant sur les espaces qui sont déjà préservés, et fort heureusement, il y en a beaucoup, et en s'interrogeant sur toutes les manières possibles de pouvoir améliorer la dynamique écologique entre ces deux espaces pour redonner un petit peu d'élan à cette dynamique-là. Et pour ça, on peut pratiquer des acquisitions de foncier en notre nom propre ou pour le compte de nos partenaires. Nous, notre vocation principale, c'est pas du tout de devenir propriétaire en notre nom. L'objectif, c'est de protéger le foncier. Cette protection, on peut aussi...
De le sanctuariser quelque part, pour la nature.
Alors, forcément, justement, j'allais y venir. C'est-à-dire que... ou alors de le protéger par le volet réglementaire. On fait beaucoup la promotion d'un dispositif qui s'appelle les obligations réelles environnementales, ou ORE. Et c'est un dispositif, un contrat qui est passé entre un propriétaire et un co-contractant œuvrant pour l'intérêt de la nature, qui a vocation à préserver le fonctionnement, les caractéristiques écologiques d'un site sans déposséder le propriétaire de sa terre. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce contrat dit d'ORE, il est lié à la terre et pas au propriétaire. Donc dans le cadre d'une vente, les obligations s'imposeront au futur acquéreur. Donc c'est un acte fort, mais c'est quelque chose dont on entend faire la promotion. Et alors, pour savoir ce qu'il est possible de faire sur ces fonciers-là, nous on part toujours, et là on recourt à l'appui notamment de notre comité scientifique, d'un diagnostic écologique du site. Ce qu'on cherche à porter, c'est une sorte de renversement de grille de lecture, de repartir des besoins fondamentaux ou des caractéristiques fondamentales du site d'un point de vue purement écologique. Si c'est une forêt, on va l'interroger comme ça. Si c'est un espace agricole aussi. Et ensuite, de se dire, qu'est-ce qu'il faut impérativement protéger sur ces sites pour que ça aille moins mal. Et donc, ça nous conduit à faire, comme d'autres de nos partenaires, de la libre évolution, par exemple. C'est quelque chose qu'on n'hésite pas à faire. Mais...
On rappelle la libre évolution. C'est-à-dire laisser la nature reprendre ses droits comme elle l'entend. Mais ça peut être parfois aussi des équilibres liés à l'agropastoralisme, par exemple, ou à des pratiques humaines qui vont pas forcément enrichir, mais en tout cas préserver le lieu.
Mais en tout cas, ce diagnostic écologique peut tout à fait nous conduire à dire, sur ce site, sur cette parcelle de forêt, par exemple, on peut tout à fait imaginer pratiquer encore la sylviculture, à condition que ce soit fait comme ça, comme ça. Et nous, on pousse le raisonnement jusqu'au bout en disant qu'on accompagne le projet jusqu'à formaliser la forme que pourrait prendre une exploitation sylvicole sur cette parcelle. Donc on s'entend sur la définition d'un îlot de sénescence, d'un espace de libre évolution, et sur le reste de l'espace, celui sur lequel on se permet d'exploiter, on essaie d'aller jusqu'au bout de l'idée en disant, si on doit exploiter, il faut le faire comme ça. Idem pour l'agriculture, en grande culture, idem pour l'élevage ou le pastoralisme.
Oui, donc c'est pas forcément des sanctuaires. On peut avoir de bonnes pratiques. L'homme peut cohabiter avec la nature.
Nous, on est assez sensible à certaines démarches qui sont portées à l'échelle européenne. C'est des choses qui sont incontestablement vertueuses d'un point de vue purement écologique. Mais par contre, on ne peut pas imaginer pouvoir déployer ça à grande échelle. Donc même si on arrive un jour à déployer ce genre de projet, ça ne nous dispensera pas d'une réflexion sur la reconstruction, la recomposition de notre rapport au vivant dans les forêts qu'on exploite, dans les terres qu'on exploite, qu'on cultive, dans les prairies qu'on pâture, etc.
Vous êtes un fonds de dotation. Bon, On a compris qu'il y avait déjà un peu d'argent qui était sur la table, mais vous en cherchez, je suppose, un peu plus encore ?
Pour faire fonctionner tout ça, on a besoin de mécènes. Donc, on a besoin de renforcer notre pouvoir d'action, sachant que nous, le fonctionnement du fonds de dotation, c'est que notre dotation initiale sert à faire fonctionner le fonctionnement de la fondation tel qu'il est aujourd'hui, et tout apport supplémentaire sert uniquement aux acquisitions foncières ou aux contrats d'obligation réelle environnementale. Mais on a aussi besoin de bénévoles, parce que les plans de gestion des sites qu'on possède nécessitent des interventions. Et ensuite, on a besoin d'un réseau de partenaires établi, notamment pour de la veille foncière. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie guerre du foncier pour savoir ce qui est à vendre ou savoir ce que certains propriétaires seraient prêts à faire en matière d'obligation réelle environnementale, par exemple. Et ce contact avec les gens qui détiennent la terre aujourd'hui, il est indispensable et ça, on en a vraiment besoin.
Ça, c'est un réseau que tout le monde peut aider. On va faire une petite pause musicale. Tu as envie d'écouter quelque chose ?
Un groupe que j'apprécie beaucoup, c'est San Salvador.
Alors nous voilà de retour avec Thomas Contamine pour la fondation Clamor Terrae. Thomas, quand on a préparé très rapidement cette émission au téléphone, tu m'as dit que la fondation, ce qui était intéressant, c'est qu'elle elle investissait finalement des angles morts de ce que les associations classiques peuvent ou les entreprises d'ailleurs peuvent faire. C'est quoi ces angles morts ?
Parmi les acteurs historiques qui sont investis la plupart du temps tout à fait sincèrement dans la préservation des écosystèmes, que ce soit des collectivités territoriales, les services déconcentrés de l'État, les associations historiques de protection de la nature, de par leur mode de fonctionnement intrinsèque, leur inertie respective, leur façon de fonctionner, ben dégager chacune à leur manière des petits angles morts, des endroits où ils ne pouvaient pas intervenir, ils ne pouvaient pas agir. Et donc nous, l'idée, c'était au lancement des réflexions, c'était pas du tout de devenir un acteur de plus qui allait concurrencer ce que les autres faisaient déjà, mais mais plutôt de déployer nos moyens précisément dans ces angles morts en essayant de faire ce que les autres avaient du mal à faire ou ne pouvaient pas faire parce qu'ils n'avaient pas un modèle qui était fait pour. Je prends un exemple très concret sur la question de la gestion des forêts, par exemple. Des acteurs de protection de la nature stricto sensu, il y en a un certain nombre qui font et qui le font très bien, de la gestion avec de la libre évolution pour des très très belles forêts avec des hauts patrimoines écologiques. Et ensuite, à l'autre bout du spectre, pour des forêts qui ont été plantées en monoculture de Douglas dans les années 70, parce que c'était la manière dont on faisait à l'époque, des acteurs de protection de la nature qui s'intéressent à ces types de fonciers pour essayer de réorienter leur trajectoire écologique, il y en a très très peu. Et donc nous, on s'est dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire là, parce que si on raisonne en ratio de surface, malheureusement aujourd'hui, des plantations monospécifiques à grande échelle, il y en a malheureusement beaucoup plus que des vieilles forêts à haute valeur écologique. Donc faisons tout pour protéger ces forêts à haute valeur écologique, mais il faut quand même se demander ce qu'on fait du reste, et donc c'est une partie des choses qu'on souhaite faire.
Vous avez des réalisations justement en cours ?
Ben, un certain nombre. Donc là, on a véritablement lancé l'activité de la fondation au printemps 2025, donc ça fait pas tout à fait un an, mais on a déjà participé à l'acquisition ou acheté à peu près 400 hectares de foncier dans les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées Atlantiques, les Pyrénées Orientales. Voilà, donc dans ces modèles d'acquisition, nous, on n'a pas vocation nécessairement à devenir propriétaire. Il y a beaucoup de choses qu'on achète pour le compte de nos partenaires, dont les conservatoires d'espaces naturels, que ce soit Nouvelle-Aquitaine ou Occitanie, nos partenaires associatifs, forêts préservées, Nature en Occitanie, etc. Voilà. Ensuite, on a mené un travail à l'automne 2025, là, qui a été publié au tout début de l'hiver, de réflexion autour de l'avenir de l'hydroélectricité dans les Pyrénées. Avec une sorte d'état de l'art sur les projections climatiques et l'impact que ces projections climatiques auront sur le débit de nos cours d'eau, de mettre ça en regard de l'activité hydroélectrique. Enfin, le phénomène dominant, c'est une modification de la distribution annuelle de ces précipitations. Donc ça, c'est le phénomène marquant. Mais en plus de ça, il va y avoir une diminution du volume absolu. Voilà, il y a les deux. Mais de toute façon, pour l'hydroélectricité, c'est un vrai problème, même s'il n'y avait pas de modification du volume absolu, mais simplement un changement de régime de pluie avec une distribution dans l'année modifiée, ça a un impact tout à fait déterminant parce que ça change en fait le rôle de château d'eau, de stockeur des volumes d'eau que jouent les montagnes, le massif pyrénéen.
Avec je me disais que ça pouvait justement renforcer du fait de ces épisodes brutaux où justement les barrages allaient pouvoir se remplir et se vider entre les épisodes brutaux.
Alors ça dépend, parce qu'en fait le grand drame de l'électricité, c'est qu'elle ne se stocke pas, donc ce qui veut dire qu'il faut qu'on puisse la produire au moment où on en a besoin ou pouvoir la stocker. Mais encore une fois, ces épisodes brutaux, ils sont tellement brutaux que ça oblige beaucoup des gestionnaires hydroélectriques à ouvrir les vannes quand il y a des orages pour limiter les pressions sur les ouvrages, et donc l'effet de stockage, on passe un peu à côté. Et puis pour toutes les stations, et c'est la majorité d'entre elles qui sont au fil de l'eau, qui n'ont pas de manette sur lesquelles appuyer pour gérer le stockage, ben ils prennent ce qu'il y a à prendre, et une fois qu'ils sont au maximum de leur capacité de production, il peut y avoir trois fois le débit, ça ne changera pas grand-chose pour elles. Et sur ces questions d'hydroélectricité, la principale conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'aujourd'hui, ce serait une aberration complète que d'imaginer de nouveaux aménagements hydroélectriques. Mettre des moyens pour aller artificialiser les derniers cours d'eau qui ne le sont pas, parce qu'il y a quand même l'essentiel des cours d'eau pyrénéens qui sont aujourd'hui captés. C'est assez fou, et donc nous, ce qu'on préconise plutôt, c'est de mobiliser les financements qui auraient pu servir à créer ces infrastructures-là pour moderniser, entretenir, faire durer le plus longtemps possible toutes les infrastructures hydroélectriques déjà existantes. Et ensuite, un chantier sur lequel on travaille là, qui va être publié tout bientôt, c'est une sorte de guide à l'attention des élus municipaux dans le cadre des élections municipales, qui fait un petit effort de synthèse sur ce qu'il serait le plus prioritaire, déterminant, de mettre en œuvre à l'échelle du mandat municipal à venir en matière de préservation des écosystèmes et de la nature dans le périmètre des compétences d'une commune ou d'une intercommunalité.
Quelles sont vos conclusions ? Quelles sont les pistes que vous donnez aux élus ?
Donc il faut commencer par arrêter ce qui détruit les écosystèmes, parce que on peut déployer tous les efforts qu'on veut pour les restaurer, on aura toujours un temps de retard sur les destructions si on continue à le faire au rythme auquel on le fait. Le deuxième point, c'est de commencer par les actions à forte inertie. Typiquement, la lutte contre la pollution lumineuse, c'est un impératif déterminant, et à la fois pour des questions d'économie d'énergie ou de préservation de la biodiversité. Mais l'avantage avec ce genre de décision, c'est que le jour où on décide d'éteindre, on éteint, et 20 minutes après, la pollution s'est résorbée et détruite, il n'y a aucune trace, c'est terminé. Si on décide de planter un arbre, il va falloir 30 ou 40 ans avant que ça produise des effets. Donc si on doit commencer par quelque chose, caricaturalement, plantons des arbres avant d'éteindre la lumière, voilà, en termes de priorisation. Et après, le dernier principe, c'est de miser sur les actions qui présentent des co-bénéfices. C'est-à-dire qu'on est tellement en retard sur la mise en œuvre de ce qu'il faudrait faire pour diminuer l'ampleur du problème, qu'il faut essayer de miser sur les choses qui présentent des co-bénéfices. L'essentiel des préconisations qu'on fournit, elles ont trait aux logiques d'aménagement du territoire, à travers notamment les documents de planification d'aménagement du territoire, les plans locaux d'urbanisme, etc. Et le principal levier sur lequel on peut jouer, c'est l'artificialisation. Essayer de réduire au maximum l'artificialisation, de remployer le foncier, de réutiliser des parcelles déjà artificialisées pour limiter les pressions nouvelles sur les écosystèmes, parce que toute nouvelle mise en chantier d'une parcelle, c'est la destruction de la parcelle concernée. Mais il faut imaginer aussi ce que ça implique en matière de mobilisation de ressources, matériaux qui viennent d'ailleurs, qu'on a détruits également pour pouvoir construire sur cette parcelle. Donc il y a toutes ces destructions cachées quand on ne considère que la parcelle en question, mais qui font que le problème en fait est le premier sur la pile.
On a parlé tout à l'heure rapidement de comité scientifique. Quels sont les scientifiques avec lesquels vous travaillez ?
Alors pour l'instant, donc, le comité scientifique, il est en cours de structuration, donc il est ouvert à toute contribution volontaire. Donc les scientifiques qui composent ce comité le font à titre bénévole. On leur soumet nos propres productions, nos rapports, nos écrits, nos notes d'analyse pour relecture et avis. Et on essaie d'enrichir au mieux la qualité de nos productions par leur avis. Et ensuite, nous, on a aussi une activité de soutien de programme de recherche. C'est-à-dire qu'on peut financer, là, on a une convention de partenariat avec le CNRS d'un labo à Toulouse pour un programme de recherche. Donc ça fait partie des activités qu'on soutient. Et aujourd'hui, les gens qui composent le comité scientifique, c'est essentiellement des écologues, profil écologue, éthologue essentiellement. Mais on a vraiment la volonté de l'ouvrir à d'autres champs disciplinaires. Moi, je viens des sciences humaines et je sais tout ce que le champ de la recherche en sciences humaines pourrait apporter sur la sociologie de la transition, notamment. C'est un changement de nature anthropologique qu'il faut qu'on entreprenne. Donc on a aussi besoin de ces compétences-là dans ce qu'on mène. Et on a aussi besoin de juristes, notamment, en droit de l'environnement. Donc ça fait partie des profils qu'on recherche. On aimerait bien pouvoir, pour qu'on soit informé de l'actualité de la recherche ou des nouveaux champs de la recherche sur ces domaines-là.
J'ai vu aussi que vous aviez des partenaires, on en a parlé tout à l'heure, on en a parlé d'un, FNE, il y en a d'autres, j'ai vu sur le site, je ne les ai pas forcément retenus.
Oui, donc on a un écosystème.
Ça sert à quoi vos partenaires ?
Alors, ça sert à démultiplier nos projets. Alors déjà, parce que c'est des partenaires avec lesquels on partage les mêmes intentions, les mêmes orientations stratégiques, et on est dans une logique de complémentarité, comme je disais. Et donc, ces partenariats, donc on a un partenariat avec France Nature Environnement, un partenariat avec la Maison de la Nature et de l'Environnement des Hautes-Pyrénées également.
Et au bord d'un très joli lac où on peut observer les oiseaux.
Exactement.
Migrateurs en particulier.
Implantés dans un super lieu qui mène de très beaux projets, notamment de plantation de haies, essentiellement en contexte agricole, mais pas que, voilà, arbres et paysages. Et donc c'est cette activité-là qu'on soutient à travers notre partenariat. Et donc voilà, pour nous, en gros, ces logiques de partenariat, c'est aider les gens qui défendent les mêmes causes que nous à démultiplier leurs moyens d'action sur les sujets que nous, on n'a pas l'expertise de mener en propre. Toujours dans cette idée de complémentarité et d'angle mort, on mobilise notre capacité redistributive pour des projets qu'on n'aurait pas l'expertise de mener directement. Typiquement, la Maison de la Nature et de l'Environnement, ils font ça mieux que personne d'autre sur le département pour planter des haies ou des arbres hors contexte forestier. Donc il n'y avait aucune raison qu'on entreprenne ça de notre côté. Mais on est convaincu de la nécessité de le faire, d'où cette convention de partenariat.
Très bien. Alors on l'a déjà dit, vous êtes basé sur les Pyrénées, mais pourquoi avoir choisi là ? Il y a un enjeu quand même encore ?
Oui, alors il y a un véritable enjeu. Alors il y a de toute façon une part, on va dire, d'irrationnel ou de subjectivité. C'est parce qu'on est tous très attachés à ce territoire-là. C'est aussi pour ça que la Morterraie travaille sur les Pyrénées.
Vous voulez que ça reste sauvage ?
Mais on veut surtout que ça continue de vivre, tout simplement parce que On peut faire un double constat sur les espaces comme les Pyrénées. Il y a d'un côté effectivement cette image d'espace sauvage très préservé, mais il faut toujours se rappeler que si ça nous apparaît comme sauvage et préservé, c'est surtout par comparaison avec d'autres endroits qui eux sont plus du tout sauvages et plus du tout préservés. On peut penser à des zones des centres urbains, des grandes plaines agricoles, où là on perçoit vraiment le caractère intensif de l'implantation de l'homme. Mais parce que si on regarde véritablement en valeur absolue le caractère sauvage ou la richesse biologique des Pyrénées, oui, c'est bien, mais on pourrait mieux faire. Il faut toujours garder en tête que dans 1 km² de forêt tropicale, il y a plus d'espèces que dans toute l'Europe de l'Ouest. Donc en termes de richesse intrinsèque et de valeur absolue, c'est pas si exceptionnel que ça. C'est exceptionnel, ramené à son contexte européen, qui par ailleurs est extrêmement artificialisé sur de très grandes emprises. Donc ça, c'est une première idée. Et ensuite, même en partant de ce constat-là, nous, l'objectif, c'est pas du tout d'imaginer des Pyrénées. Les Anglais ont un terme pour ça, ils parlent de rewilding, de réensauvagement complet. Nous, c'est pas du tout notre intention. L'idée, c'est de pouvoir donner les meilleures armes possibles à nos écosystèmes, pour pouvoir essayer de subir le moins durement possible les effets du changement climatique qui se profile.
Et les hommes qui y sont dessus aussi. Permettre aussi de continuer le dialogue de l'homme et la nature, c'est un peu votre idée.
Exactement, parce que nous, quand on parle de biodiversité ou d'écosystème, il y a l'homme au milieu de tout ça, ou plus exactement, qui dépend de tout ça. Et c'est pour ça que le terme d'environnement, il est très très mal choisi, parce qu'en fait, le vivant, c'est pas ce qui nous entoure, c'est ce qui nous fonde, en fait. On peut pas faire sans. Donc effectivement, je l'ai pas reprécisé, mais nous, quand on parle d'écosystème, ça intègre l'homme, et si on parle d'écosystème pyrénéen, montagnard, par exemple, l'agropastoralisme est une composante tout à fait incontournable de ces réflexions-là. Et pour en revenir au changement climatique, ce qui est certain, c'est que, enfin ce qu'on sait aujourd'hui de façon certaine, c'est que les effets du changement climatique, pour des raisons qu'on n'a pas encore tout à fait bien établies, sont plus durs, plus rudes, ou en tout cas plus rapidement dans les Pyrénées, ou en montagne en général, qu'en plaine. Et donc, à ce titre-là, c'est plus urgent encore qu'ailleurs pour pouvoir essayer déjà, comme je le disais tout à l'heure, d'arrêter de limiter la casse, d'arrêter d'aggraver le problème en quelque sorte, en renforçant l'artificialisation, etc. etc. Et puis d'essayer de réfléchir à la manière dont on peut adapter nos pratiques, tout simplement pour que la fête dure encore un peu, parce que nous, on aime ce territoire tel qu'il est, et si on a envie qu'il continue à nous offrir les richesses qu'il nous offre, il va falloir remettre un petit peu en question la manière dont on l'exploite aujourd'hui pour sortir précisément de cette logique d'exploitation.
Alors on a vu, on a fait quelques émissions déjà dans les Pyrénées, on a vu ces projets de grandes scieries qui auraient vocation à raser les forêts, mais pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y a justement surtout en haute montagne, on a l'impression qu'il y a une gestion relativement saine et équilibrée, avec de l'élevage extensif plutôt qu'intensif. Non, je me trompe, c'est une...
Il y a un effet de source que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours tendance à comparer cette situation-là à d'autres systèmes qui sont beaucoup plus intensifs, donc comparativement, ça paraît plus léger, mais non, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de menace, malheureusement. On voit, si on reste sur la haute montagne, la raréfaction de l'eau crée une tension sur l'herbe qui pose des questions sur les charges pastorales admissibles de ces estives-là par les bêtes. Et comme la pression sur les Pyrénées est de plus en plus forte chaque année, parce que les éleveurs du Tarn, du Lot, etc., qui sont confrontés à des sécheresses d'ampleur historique, cherchent de l'herbe, donc montent de plus en plus. Donc la pression subie par les écosystèmes, elle va aller en s'accroissant, parce qu'il y a des gens qui vont venir de plus en plus loin avec de plus en plus de bêtes. Donc ça, si on reste sur le strict point pastoral, c'est un vrai sujet. Idem pour la question de la pollution de l'eau par certains sites très fréquentés ou des refuges en montagne. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a un défi technique qui est celui de l'assainissement de ces zones extrêmement fréquentées. Et un défi technique qui n'est pas toujours solutionnable. Donc ça pose la question du modèle de développement touristique qu'on propose. Et ces questions-là, aujourd'hui, elles sont assez...
En été surtout, parce que l'hiver, les stations de ski ont quand même globalement des équipements maintenant d'assainissement qui sont corrects.
Oui, alors j'ai pas de détails, mais effectivement, comme en hiver, on est un peu plus bas dans les vallées, on n'a pas de vrais villages d'altitude comme on peut avoir dans les Alpes, le problème est moins perceptible qu'avec les refuges, sur certains cas, il peut y avoir des problèmes, effectivement. Donc voilà, il va y avoir un certain nombre de chocs climatiques qui vont nous obliger à reconsidérer la manière dont on fréquente, vit de ces espaces. Et c'est ces questions qu'on a envie d'engager et la voie qu'on a envie d'ouvrir avec la Fondation.
avec la fondation et toutes les bonnes volontés qui auront envie de vous soutenir financièrement, de vous soutenir scientifiquement ou de vous soutenir bénévolement pour vous accompagner. On rappelle donc qu'il y a un site Clamor, Clamor, C-L-A-M-O-R, T-R-A-E, T-E-2-R, A-E, merci, A-E, merci, c'est .org je crois, .org. Merci beaucoup Thomas, bonne continuation, au revoir.
Et merci, au revoir.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.